du monde, ils se sentaient étrangers à la guerre et convaincus qu'ils n'en tireraient rien. Ce mouvement ne leur disait pas grand-chose. Ils étaient tristes. Parvenus sous les platanes de la grande place, le colonel Nankett poussa un soupir en regardant le café. Par les vitres ouvertes, on voyait le billard. Il reconnut la silhouette de l'instituteur qui lui fit un signe de la main, auquel il ne crut pas devoir répondre. Leur amitié, au début, avait fait un peu scandale. Il était entendu que les militaires étaient, d'ordre des choses, du côté de l'Église, mais ils étaient de la même région, et s'étaient accordés sans peine. L'instituteur s'enflammait à propos de l'Alsace et Nankett, qui avaient combattu aux colonies, lui racontait les misères de la guerre. Puis ils buvaient, de la bière brune surtout. Ils jouaient au billard ensemble. Le colonel n'allait pas dans les châteaux, où d'ailleurs il était rarement prié, sauf parfois à Bussy, où passait de temps à autre un médecin de Paris du nom d'Augustin Pierre, un homme sans apprêt, au silence honnête. Le colonel ne comprenait pas bien qu'il ait choisi cet endroit. Dès son arrivée, Nankett avait voulu présenter ses devoirs au général Grigoriev, dont la réputation était grande à l'armée. Le général l'avait déçu, refusant d'évoquer son passé, l'air vraiment d'un civil, un retraité, un horticulteur. Ou bien il se moque de moi. Sa femme était très belle et trop jeune pour lui. Il ordonna au commandant en second de reprendre la troupe en main avant de déboucher devant l'église, et passa devant le café les yeux fixés sur l'horizon. Sous le portail en roussailles, le curé n'avait pas l'air content. L'idée de l'Allemagne traversa l'esprit du colonel Nankett. « Il sera bien temps plus tard », pensa-t-il. Deux gendarmes, tenant leur monture par la bride, se raidirent au passage du drapeau roulé dans sa gaine. Les ordres descendirent. On entendit les gradés crier pour couvrir le bruit des pas, lever la tête, attaquer le sol du talon, écoutez-vous marcher, un frémissement parcourut la petite foule assemblée sur la grande place. Écoutez-vous marcher, la guerre serait facile. Le maire ôta gauchement son chapeau. Peu à peu la foule s'enhardit, les hommes criant, les femmes applaudissant, et parfois rompant les rangs pour embrasser les soldats. À Berlin, cria Paturon, le marchand de bêtes, aussitôt imité par son valet de ferme réformé pour imbécilité. « C'est ça, et le caissier on l'assoira sur son casque à pointe, » éructa quelqu'un. Une femme glapit, « salaud de boche, » pourtant la bonne humeur l'emportait. Électrisée par le spectacle, la foule s'ébranla, épousant la forme du régiment l'entourant, et ce troupeau prit la route de la gare. Des fous apeurés, craignant d'être écrasés, rentrèrent précipitamment à l'hospice. Des infirmiers en blanc, ceux qui ne partaient pas, se bousculaient au balcon. C'était à qui crierait le plus fort. Dans sa maison près du pont, Germaine Horschol n'entendait presque plus rien. « C'est déjà fini, » se dit-elle, « d'habitude c'était jour de marché. » Elle s'endormit, les mains crispées sur le pelage du chat. Charles-Pierre s'était réveillé plus tôt que d'habitude. Toutes fenêtres ouvertes, il écouta quelques instants les bruits du dehors, s'attendant à des clameurs, à de l'agitation. Il se souvenait de 1870 et des chansons. C'était la même saison. Place de la Bourse, une grande foule avait entonné la Marseillaise. Sa femme et lui avaient vu Marie Sass la lancer debout dans sa voiture, près des Italiens. Partout des hommes pâles, tendus, des femmes aux gestes grisés, des groupes se formant, se déformant, partant en tourbillon sur les boulevards vers les gares. Aujourd'hui, rien de pareil. Seul le murmure de la fontaine troublait le silence de la place. Charles descendit dans sa librairie, l'esprit occupé d'un souvenir qu'il ne parvenait pas à préciser. Sur une des grandes tables en bois, la femme de charge avait déposé tous les journaux du matin. Il se rappela la liberté, les cartes des chemins de fer de l'Allemagne. La lumière, déjà chaude à 8 heures, envahit la librairie. Florence avait attendu des journées entières aux Batignolles. On y tenait l'inscription pour la viande. Dans les files interminables, des vétérans, des gardes nationaux, des petites filles, des grisettes, le cheveu au vent. Ce spectacle l'amusait beaucoup, comme celui des Halles, où le pavillon de la marée débordait de viande de cheval, où les bourgeois se battaient autour du marché aux légumes. Tous deux avaient fait le tour de Paris par le chemin de fer de ceinture pour voir les fortifications. C'était la mode. Les jeunes filles grimpaient comme des chèvres sur les talus de sable et collaient les yeux aux meurtrières. Des élégantes sur le chemin de ronde parlaient de bastions, de gabions et de cavaliers. D'ailleurs, partout dans Paris, le rempart faisait fureur. On vendait des couvertures de rempart, des lits de rempart, des fourrures de rempart, des gants de rempart. Voilà. C'est cela, Pax Tibi Mars Evangelista Me. À Saint-Marc, le chemin de ronde autour, au milieu des voûtes surplombant la nef. Le petit sentier suspendu aux aires de chemin de ronde. Et ce livre sur lequel Florence et lui étaient penchés le jour où l'autre guerre éclata. Sur la couverture, on voyait le lion de Venise la patte posée sur les écritures. Pax Tibi Mars Evangelista Me. Charles-Pierre jeta un regard désolé à Humboldt, à Fleurbach, aux aventures d'un homme de qualité dans le labyrinthe de l'amour. Dire qu'il va falloir à nouveau les appeler les Bauches, quel ennui. Il sortit en chemise sur le pas de sa porte, une tasse de café à la main, tout était calme. Il vit passer un fiacre, un homme qui faisait des moulinets avec sa canne. Il entendit une automobile qui devait descendre vers l'église de Saint-Germain. Mais aussi, pourquoi ne reste-t-il pas chez eux? C'est bien l'Allemagne, et nous, ma foi, même l'ami Klein doit être fâché de voir revenir l'Alsace. Il passa une veste et se mit en route pour l'hôtel de ville. Augustin ne viendrait pas avant midi.